On n'a pas besoin de chercher les problèmes.
Qu'est-ce que tu dis?
On n'a pas besoin de chercher les problèmes.
C'est eux qui vous trouvent, hein?
Toute notre vie est un problème.
Et à qui la faute, tu crois?
Bonsoir Xavier Mathieu, vous êtes le délégué CGT de Continental à la Clairoix. On comprend bien sûr votre désarroi, mais est-ce que ça ne va pas trop loin? Est-ce que vous regrettez ces violences? Vous plaisantez, j'espère.
Il faut travailler à réduire globalement la violence qui reste invisible, en tout cas à partir des lieux centraux ou dominants, celle qui s'exerce au jour le jour, pêle-mêle, dans les familles, les usines, les ateliers, les commissariats, les prisons, ou même les hôpitaux et les écoles, et qui est le produit de la violence inerte des structures économiques et sociales et des mécanismes impitoyables qui contribuent à les reproduire.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est l'émission Angle Mort qui commence comme tous les dimanches, ou presque. Parce que dimanche dernier, on n'était pas là. À 21h, ou à peu près.
Voilà.
Voilà. Donc ce soir, Eric nous a préparé un beau petit programme qui va vous présenter tout de suite.
Ouais, alors bon, je sais pas. Mais donc, on va essayer de faire honneur à cette émission de critique et d'expérimentation sociale avec. En fait, je vais le revenir sur un livre qui m'avait beaucoup plu. Moi, enfin un livre, une fois n'est pas coutume, un roman, parce que en général c'est pas moi qui me charge de présenter des romans, c'est pas trop ma spécialité ou mon truc. C'est vrai que je lis assez peu de fiction, mais je voulais donc revenir sur ce roman et son auteur. Donc le roman en l'occurrence c'est Le Vaisseau des Morts, qui est paru en 1926 en Allemagne sous le titre de Das Totenschiff. Et l'auteur, il a en fait plusieurs pseudonymes, dont notamment Beethoven. C'est avec ce pseudonyme qu'il a publié l'essentiel de son œuvre romanesque, dont donc le Vaisseau des Morts. Mais entre autres pseudonymes, il y a aussi Retmarut, Al Croves et j'en passe. Et donc pour évoquer ce personnage qui est devenu assez célèbre maintenant, même si bon, moi j'ai appris, c'est assez récemment finalement que j'ai appris qu'il existait, enfin voilà, qui c'était. Et donc pour le présenter, je vais m'appuyer sur un roman graphique intitulé Beethoven, portrait d'un anonyme célèbre qu'on doit à Golo et qui est paru chez Futuropolis en 2007. Voilà, donc j'en dis pas plus pour l'instant, on va commencer par une petite pause tout de suite sur Angle Mort.
Clandestina estimada, reforma radical, indígena, libertad social y cultural, autonomía, revolución, canción de protesta, la única solución, tierra y libertad, justicia y dignidad, por eso se resiste cantando, por eso levantamos el puño gritando, por eso luchamos, por eso murieron tantos peleando. Derrière chaque passe montagne, ici c'est militant, pas narco, y'a pas de passe la canne. Entre la croix et la potence, les chars de l'armée fédérale et les communautés en résistance. Ma cité c'est le Chiapas, ma cagoule le symbole de la guerre sociale. Entre les cartes de CRS et les FAMAS on trace l'autonomie comme axe de lutte, l'autogestion de nos combats, l'autodéfense comme seul point de chute. Entre les lianes, le bitume et les cages, entre le soleil, le ciel, gris et l'orage, la dureté de nos propos n'a d'égal que notre rage.
Eric vous parle de Beethoven ce soir.
Tout à fait. Donc à l'instant, c'était Guarapita, le groupe Guarapita avec la chanson Zapata, qui est un peu en lien avec le thème d'aujourd'hui, même si on ne va pas s'arrêter plus que ça sur la révolte zapatiste. Mais l'auteur dont il va être question a fréquenté, enfin je vais y revenir, mais il a fréquenté, enfin il était assez solidaire des Indiens du Chiapas. Donc, Betraven, je disais, qui a une vie encore nimbée de plusieurs zones mystérieuses, on va dire. On ne sait pas où il est né, peut-être aux États-Unis, peut-être en Allemagne. On ne sait pas où il a grandi. Il s'est fait connaître notamment comme l'auteur en fait, du roman Le Trésor de la Sierra Madre, qui a été porté à l'écran en 1948 par le réalisateur John Huston, et qui avait des acteurs célèbres, dont Humphrey Bogart. Un film qui a eu un gros succès puisqu'il a obtenu 3 Oscars. Le roman, lui, est plus ancien puisqu'il date de 1927. Et donc Betraven fut aussi auparavant, avant de publier ses livres à succès, il fut aussi dans les années de l'après Première Guerre mondiale en fait, un activiste politique révolutionnaire en Bavière, à Munich, puis fugitif. Il a passé une bonne partie de sa vie donc au Mexique ensuite, où il a fraternisé avec les Indiens du Chiapas, je le disais, donc dans le sud-est du Mexique. Et il considérait les Indiens mexicains, avec le prolétariat mexicain, comme ses amis les plus profonds. Donc, au moment de sa mort en 1969 au Mexique, selon ses dernières volontés, ses cendres furent dispersées au-dessus de la forêt La Candon au Chiapas. Donc. Et il a participé aussi en 1926 à une expédition ethnologique et archéologique en tant que photographe, sous un autre pseudonyme, cette fois c'était sous le pseudonyme de Torsvan, voilà, au Chiapas toujours. Donc personnellement c'est quelqu'un que, voilà, c'est un personnage que je connaissais pas pendant longtemps, hein, jusqu'à ce qu'on m'offre une biographie de lui sous une forme graphique, donc une bande dessinée. Biographie qui repose en partie, souvent, voilà, sur des passages de l'œuvre romanesque de Betraven, puisque on considère généralement que dans son œuvre, on trouve beaucoup de choses qui ont été inspirées de sa propre vie. Donc le personnage m'a semblé intéressant en lui-même déjà. Enfin bon, il est énigmatique et puis surtout, il a un parcours politique assez intéressant, enfin digne d'une forme de considération. J'ai pas envie de sombrer dans le culte de la personnalité, parce que je pense que c'est pas du tout le meilleur hommage qu'on puisse rendre à cet auteur qui a justement essayé de pas être sur les devants de l'affiche. Et, voilà. Donc c'est un roman graphique qui, au-delà de l'intérêt du personnage dont il nous fait l'histoire, il a l'intérêt de nous raconter, de nous plonger dans l'histoire des révolutions et des contre-révolutions du XXe siècle. Donc ça situe l'action à la fois en Europe, au Mexique. Ça nous plonge aussi dans une description des conditions de vie des fugitifs, des révolutions, des crèves-la-faim, on pourrait dire aussi, sous le capitalisme triomphant. Et ça retrace un peu le contexte de l'avènement des États-nations. Et donc c'est une BD qui m'a personnellement beaucoup intéressé, ce qui m'a amené du coup à me lancer ensuite dans la lecture d'un des romans de Betraven. Je le disais, Le Vaisseau des Morts, paru en 1926 sous le titre allemand de Das Totenschiff, et qui est traduit aujourd'hui aux éditions de La Découverte. Bon, mais pour commencer, avant d'en venir au Vaisseau des Morts, je voulais présenter un peu plus en détail l'itinéraire de Betraven, tel que l'auteur Golo, donc l'auteur de la BD que je parlais, tel que cet auteur en fait le récit. Donc l'histoire de ce personnage commence en 1908, on pourrait dire, puisque c'est à cette époque qu'on a les premières traces connues à ce jour de Betraven, puisque je le répète, hein, on ne sait pas où il a grandi, où c'est qu'il est né. Alors à ce moment-là, c'est quelqu'un qui, Betraven officie surtout comme acteur de théâtre en Allemagne. Puis vient la guerre et la défaite allemande, enfin on devrait dire la défaite tout court, parce que dans ce genre de conflit armé, il n'y a pas vraiment de vainqueur en fait. Pour ceux qui connaissent un peu cette histoire, vient après la défaite allemande la révolution en Allemagne, une révolution en 1918-1919 qui est pas très très connue, moi que je connais pas spécialement, hein, mais du coup l'intérêt de cette BD c'est aussi de nous plonger dans cette histoire. Et notamment dans l'histoire de la République des Conseils de Bavière, puisque là, c'est là que se situe à cette époque notre protagoniste. Donc il faut replacer le contexte, hein, on sort de la guerre, une situation de crise générale en Allemagne, les insurrections éclatent, des marins se mettent en grève, etc. Donc des conseils d'ouvriers et de soldats apparaissent. Donc conseil, c'est pour replacer, c'est de la... Enfin, en russe, on dirait des soviets. Émerge alors à Munich une République des Conseils, dont les principaux protagonistes au départ étaient d'ailleurs plutôt des anarchistes, des anarchisans. Et à cette époque, celui qui deviendra Betraven s'est lié sous le nom de Rett Marut, en tant que rédacteur d'une revue d'agitation antimilitariste et libertaire qui s'appelle Der Ziegelbrenner. Et pour donner une idée des propos de notre protagoniste, on peut citer un passage donc, de la BD qui est tiré d'un article de Retmaroute de cette époque. « Je n'appartiens pas au Parti social-démocrate et je ne suis pas non plus socialiste indépendant. » Donc socialiste indépendant, c'était une autre fraction qui, je crois, se distinguait du Parti social-démocrate par le fait qu'eux, ils étaient opposés à l'entrée en guerre. Voilà, mais donc il dit « Je n'appartiens pas au Parti social-démocrate et je ne suis pas non plus socialiste indépendant. Je n'appartiens pas au groupe Spartacus, donc, connu pour Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg notamment, et je ne suis pas non plus bolchévique. Je ne suis affilié à aucun parti, aucun cercle politique de quelque sorte que ce soit, parce qu'aucun parti ni programme, nulle proclamation ou décision de réunion ne saurait me protéger du malheur universel. » Est-ce qu'un seul de vos chefs a d'autre but que de vous régenter ou se servir de vous pour en dominer d'autres ? Pensez. C'est mon droit d'exiger cela de vous puisque vous êtes des hommes. Pensez. Pensez. Vous n'avez besoin de rien d'autre. Laissez d'un corps apaisé et insouciant s'effondrer la vie économique. Elle ne m'a pas apporté le bonheur et elle ne vous l'apportera pas non plus. Laissez consciemment pourrir l'industrie ou c'est elle qui vous pourrira. C'est sur les ruines de l'industrie que fleurit la liberté. Voilà. Une vision non dénuée de pertinence, même si on peut considérer qu'elle pourrait conduire ou confiner une forme d'aristocratisme aussi, d'une certaine manière, mais en tout cas qui moi j'aime bien. voilà, donc ça c'était pour un premier aperçu. On va poursuivre, on va faire une petite pause avec Sin Dios et la chanson La Ogrela de la Revolución.
C'est parti.
Toujours Radio Canu, toujours émission Angle Mort. On vient de s'écouter Sin Dios avec le titre La Ogrela de la Revolución. Et donc on continue cette présentation de l'auteur Betraven, alias Retmaroute, alias Alcros, alias Tetorfsan, je crois. Enfin bon, il a eu beaucoup de pseudonymes. Et donc on en est resté à l'après-guerre 1918-1919 sous le nom de Retmaroute. Notre personnage se fait connaître comme un journaliste ou enfin un libelliste radical, révolutionnaire, voilà, sous fond d'avènement de la République des Conseils de Bavière à Munich. Mais malheureusement vient la contre-révolution. Contre-révolution racontée à nouveau donc par cette BD hein, qui nous conte l'histoire de Betraven qui donc fut pour le moins sanglante. Et donc au cours de celle-ci, Retmaroute parvient à échapper de peu, semble-t-il, à l'exécution au prix de, bah, de ses, il doit s'échapper, quoi. Il fuit. Il fuit, donc être fugitif à cette époque, c'est une époque où commencent à s'imposer de plus en plus fortement les techniques de contrôle des populations. Hein. On a inventé le passeport, la carte d'identité, voilà, c'est des techniques qui n'existaient pas forcément, qui sont assez récentes, hein, qui apparaissent entre la fin du 19e et le début du 20e siècle. Là-dessus, je renvoie pour le cas de la France aux écrits d'un historien qui s'appelle... bah mince, j'ai oublié son nom, mais je crois que je l'ai noté quelque part parce que je pensais. Gérard Noriel, voilà. Donc voilà, c'est un moment où se diffusent ces techniques de contrôle de population et quand on fuit, on se retrouve effectivement sans papier. Et donc il mène une vie d'errance en Europe. Donc là on perd un peu sa trace hein, mais il refait surface à Londres à un moment donné donc c'est une période où très certainement il connaît le sort de, on va dire, des miséreux, des sous-prolétaires apparemment il cherche sans succès un passeport américain donc il se fait expulser d'un pays à l'autre, il connaît la prison, l'exploitation et c'est à ce moment là sans doute qu'il a été matelot sur un vaisseau fantôme, ce qui a fourni toute cette période a fourni une partie de son de la trame de son livre Le Faisceau des Morts sur lequel on va revenir tout à l'heure. Quelques années après, il refait surface au Mexique cette fois, donc où il passe l'essentiel du reste de sa vie. Je rappelle qu'il décède en 1969. Et c'est au Mexique qu'il se remet à l'écriture, commence à publier des manuscrits qu'il envoie en Allemagne notamment. Commence à publier ses romans les plus importants, hein, donc Le Vaisseau Fantôme, Le Trésor de la Sierra Madre, etc., qui vont connaître assez rapidement le succès. Alors, il n'en abonne pas pour autant ses convictions politiques. Selon le récit que nous en fait la BD, il fréquente par exemple des Wobblies, c'est-à-dire les anciens de IWW, Industrial Workers of the World, un syndicat américain radical. Qui est donc des Wobblies qui ont fui eux aussi au Mexique pour échapper à la répression des milices patronales. Et donc il se fait aussi à cette époque le compagnon de lutte des Indiens du Chiapas, des prolétaires mexicains. Il leur consacrera du coup plusieurs ouvrages, dont La Révolte des Pendus, que celui-là j'ai pas lu. Enfin bon, de toute façon j'ai lu que Les Vaisseaux des Morts, mais celui-là c'est, je sais que je voulais le lire bientôt. Et après la Seconde Guerre mondiale, donc là on était dans les années 1927 je crois, 1928, vient la Seconde Guerre mondiale et le Trésor de la Sierra Madre, au sortir de la guerre, est porté à l'écran, je le disais, connaît aussi un succès, ce qui amène en fait notre protagoniste, on va dire, à officier à plusieurs reprises comme scénariste, sous le nom de Hal Crowes. Et donc c'est à partir de ce moment-là, hein, les années d'après-guerre... les années 50-60, que l'énigme Betraven commence à faire du bruit. Quoi. On va avoir des journalistes qui vont commencer à s'intéresser à quelle est sa véritable identité, etc. Vont apparaître des rumeurs qui vont circuler, au point que là aussi, si on en croit le roman graphique de Golo, le président du Mexique de l'époque, Adolfo López Mateos, en 1960, a dû démentir être Betraven. Voilà, en fait, c'est que sa sœur Esperanza López Mateos était en fait la secrétaire et traductrice de Betraven. Et donc il y avait des rumeurs que justement sa sœur soit Betraven, qui au bout d'un moment, c'est dès le président mexicain lui-même qui était considéré comme Betraven. Donc il a dû démentir lui-même, non je sais pas moi. Voilà, donc pour le parcours un peu rapide hein, de ce personnage intéressant. J'en viens à présent, si vous voulez en savoir plus, on trouve quand même pas mal de choses aujourd'hui, hein, des sites internet, des biographies, des choses comme ça, je crois que ces premiers articles ont dû être réédités par quelques éditeurs radicaux. J'en viens à présent au roman Le Vaisseau des Morts, mais on va faire une petite pause avant de commencer la présentation de ce livre, avec une chanson de circonstance là aussi, parce que il est un peu question de ça dans Le Vaisseau des Morts, puisqu'il est un peu question de police, notamment dans la première partie, je dirais. Donc avec la chanson de The Clash, Police on My Back.
Anyway. voies dérobées, le coin de cloison est bréché. Le souterrain mal fouillé dont les sentinelles ont égaré la clé. Ma presse à faux passeport, mon billet pour le Grand Nord, mes propres boîtes de pendant.
Il est 21h30 exactement.
Et toujours sur Radio Canu, émission Angle Mort, avec donc une présentation de Beethoven. Et maintenant j'en viens à son livre Le Vaisseau des Morts, que moi j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et donc j'ai envie de le présenter pour inviter à sa lecture. Donc c'est un livre en fait qui raconte l'histoire d'un matelot américain. Et l'histoire débute à Anvers, en Belgique. Lorsque en fait, le matelot en question se trouve laissé en carafe en terre étrangère, parce qu'il était descendu un soir de son rafio qui mouillait au port d'Anvers. Et il avait envie de se dégourdir un peu les jambes. Et le bateau devait repartir à une heure, et en fait, il est reparti finalement plus tôt que prévu, sans lui, sans l'attendre. Et et donc très vite interviennent dans l'histoire ces êtres qu'on apprécie ici par-dessus tout, à savoir le policier, le contrôleur, le consul. Et donc le problème, c'est que en ces temps, on commence à ne plus trop plaisanter avec la notion de nationalité, la notion de frontière. Eh bien, lui, il a laissé son papier. Alors, c'est le livret de marin. Il a laissé son livret de marin sur le navire qui est parti. Donc, il se retrouve sans aucun moyen d'attester de sa nationalité. Et après la Première Guerre mondiale, c'est quand même pas le genre de choses qui est le plus sympathique. Il découvre très vite que ce livret de marin, auquel il n'avait pas forcément prêté attention au début, c'est quand même le sésame suprême pour les autorités. Il faut à tout prix attester de sa nationalité, etc. Donc va commencer un ballet où le héros indésirable va se faire balloter d'un pays à l'autre. Et alors, il est d'abord arrêté du coup très vite, qu'il se rend compte que son bateau est parti, très vite, il se fait arrêter à Anvers, d'où il va se faire envoyer en Hollande. Il va se retrouver donc à Rotterdam, et puis il va se faire à nouveau arrêter pour être retourné à Anvers. Ensuite à Anvers, il va se faire envoyer en France, etc. etc. Donc ce qui est marrant, les expulsions souvent, notamment les deux premières, c'est que ce sont les fonctionnaires de police eux-mêmes qui vont conduire en pleine nuit le héros à proximité de la frontière et lui expliquer comment passer illégalement la frontière sans se faire attraper, etc. Parce qu'en gros, on comprend que ils veulent s'en débarrasser, ils savent pas quoi en faire, et donc les sortes de marins qui se retrouvent là sans bateau, on va les expulser pour s'en débarrasser. Et donc c'est un début de livre, c'est la première partie du livre, que je trouve super, super bien, écrite avec un ton ironique, faussement naïf, ce qui permet du coup de tourner en dérision, on va dire, la psychose qui s'empare de l'Europe à ce moment-là, à propos des frontières, du contrôle des populations miséreuses, etc. Qui permet de souligner l'absurdité des règles en la matière et l'absurdité aussi de ceux qui sont chargés de les faire respecter. C'est une première partie qui permet du coup aussi de décrire le quotidien de ces apatrides, ballottés par l'absurdité de l'État, parce qu'ils sont désirables, miséreux. Et du coup, si j'insiste aussi sur le côté miséreux, c'est que l'auteur prend soin de montrer que les difficultés qu'il a lui en tant que matelot laissé en carafe à prouver son identité ne vont pas se poser pour des voyageurs riches dont la nationalité va faire aucun doute. Et donc quand lui va aller chez un consul, ça va poser beaucoup plus de problèmes que quand tel personnage haut placé va avoir perdu son passeport et aller chez le même consul. Voilà, donc il y a aussi une description un peu de ce deux poids, deux mesures. Et je voulais donc lire un extrait, c'est quasi un chapitre, j'espère que ça ne va pas être trop long, pour essayer de donner une idée du ton avec lequel cette première partie est écrite, pour essayer de donner envie. Donc, extrait de Le Vaisseau des Morts par Beethoven. Express Paris-Limoges, je suis monté sans billet. Cette fois, le contrôleur est passé, mais j'ai disparu sans laisser de traces. Limoges, Toulouse. Je suis également monté sans billet. Qu'est-ce qu'ils ont donc à contrôler tout le temps? Trop de fraudeurs, sans doute. D'ailleurs, ils ont bien raison. Si tout le monde voyageait sans billet, qui paierait les dividendes aux actionnaires, hein? Je disparais sans laisser de traces. Après le passage du contrôleur, je reprends ma place. Soudain, le voilà qui revient et m'aperçoit. Je le regarde moi aussi. D'un air culotté, il s'en va. Il suffit de savoir regarder un contrôleur pour se tirer d'affaire. Mais il pivote et vient vers moi. Où vouliez-vous changer, je vous prie ? Drôlement malin ce contrôleur. Sur le coup, je ne comprends pas que changer... Pardon. Sur le coup, je ne comprends que changer, parce que j'ai besoin de traduire le reste dans ma tête. Mais je n'en ai pas le temps, car il ajoute aussitôt. Montrez-moi votre billet, s'il vous plaît. Tu le demandes si poliment, mon ami, que ça me fait de la peine de ne pas pouvoir te donner satisfaction. Je m'en doutais, dit-il avec calme et discrétion. Je suis persuadé que les autres passagers n'ont pas remarqué la tragédie qui était en train de se jouer. L'homme attrape son carnet, écrit quelque chose, puis s'éloigne. Peut-être a-t-il bon cœur et va-t-il m'oublier. Mais à la gare de Toulouse, on m'attend. Pas de fanfare, mais une automobile. Oh, je sais déjà où je vais atterrir. Quand quelque chose me paraît bizarre dans les us et coutumes des Européens, c'est que je suis en route pour un poste de police ou que les flics m'ont pris sous leur aile. Dans mon pays, je n'ai jamais eu affaire à la police ou au tribunal. Ici, je peux bien être tranquillement assis sur une caisse, paraisser innocemment au lit, me promener dans un champ ou voyager en train, je finis toujours par me retrouver au poste. Pas étonnant que l'Europe soit dans la merde. Les gens n'ont pas le temps de travailler. Les 7/8 de leur vie se passent à déclarer leur domicile, à pointer dans des postes de police ou à argumenter avec des policiers. Les gens sont irritables et aiment faire la guerre pour la simple raison qu'ils se disputent sans cesse avec la police et la police avec eux. Ne donnons pas un sou de plus aux pays européens. Ils le dépenseraient pour accroître encore le nombre de leurs policiers. Pas un sou, croyez-moi. D'où venez-vous ? Un grand prêtre, donc là c'est moi qui reparle, un grand prêtre, en général c'est la manière qu'il a d'appeler le commissaire ou le policier qui va l'auditionner, voilà, prendre sa déposition, on va dire. Donc un grand prêtre est de nouveau assis devant moi. Ils se ressemblent tous, que ce soit en Belgique, en Hollande, à Paris ou à Toulouse. Il faut toujours qu'ils vous questionnent, ils veulent toujours tout savoir. Et on commet invariablement l'erreur de leur répondre. On devrait rester sans bouger, se taire et les laisser deviner tout seuls. Ils se retrouveraient bientôt à l'asile de fous, ou alors ils réintroduiraient l'usage de la torture. On ne répondrait jamais, et les flics deviendraient encore plus bêtes qu'ils ne le sont. Mais encore faut-il supporter de rester là, assis ou debout, d'être interrogé sans arrêt et de ne pas ouvrir la bouche. Notre satanée langue s'active toute seule dès lors que l'on nous a posé une question, la force de l'habitude. Il est en effet insupportable de laisser une question en suspens sans rétablir l'équilibre en y apportant une réponse. Une question sans réponse ne vous laisse pas en repos, elle vous poursuit, s'insinue dans vos rêves et vous empêche de travailler et de réfléchir. Le mot « pourquoi » suivi d'un point d'interrogation est à la base de toute culture, de toute civilisation, de tout développement. Sans ce mot, les êtres humains ne sont rien de plus que des singes, et il suffirait d'inculquer ce mot magique aux singes pour qu'ils deviennent aussitôt des êtres humains. Parfaitement. Je vous ai demandé d'où vous veniez. J'ai pourtant essayé de ne pas répondre, mais déjà je ne tiens plus. Je me sens obligé de sortir quelque chose. Dois-je dire que je viens de Paris, ou plutôt de Limoges ? Si je dis Limoges, ça me coûtera peut-être 8 jours de moins, parce que c'est moins loin que Paris. Je suis monté à Limoges. C'est faux, mon bonhomme, vous êtes monté à Paris. Ça alors, il devine tout. Non, je ne suis pas monté à Paris, mais à Limoges. Allons, vous avez dans la poche un billet de quai vendu à Paris. Et ils m'ont une fois de plus fait les poches. Je ne m'en suis même pas rendu compte. J'y suis maintenant habitué et je ne le remarque plus. Oh, ça fait longtemps que j'ai ce billet de quai. Depuis quand ? Au moins 1 mois et demi. C'est curieux, il porte la date d'hier matin. Alors c'est qu'il y a une erreur de date, manifestement, donc vous êtes monté à Paris. Mais de Paris à Limoges, j'ai payé. C'est un fait, et vous êtes tellement bon payeur que vous avez pris un billet de quai alors que vous n'en aviez pas besoin, puisque vous aviez déjà un billet. Mais si vous affirmez que vous aviez déjà un billet Paris-Limoges, où est-il ? Je l'ai remis à Limoges, répondis-je. Dans ce cas, vous devriez avoir un billet de quai délivré à Limoges, mais passons, assurons-nous d'abord de votre identité. Bon, je préfère qu'ils s'assurent de mon identité que de ma personne. Nationalité ? Question délicate. Je n'en ai plus puisque je suis incapable de prouver où je suis né. Je pourrais tenter la nationalité française. Le consul m'a expliqué qu'il y avait des milliers de Français qui ne parlaient pas la langue du pays et étaient pourtant Français. Il ne me croira sûrement pas. Il faudra que je lui fournisse une preuve. Ce que j'aimerais bien savoir, c'est si voyager en train sans billet coûte moins cher à un Français ou à un étranger. Un étranger pourrait croire de bonne foi qu'on n'a pas besoin de billets en France. De plus, la police n'a pas trouvé d'argent dans mes poches et c'est suspect. Ne pas avoir d'argent est d'ailleurs toujours suspect, dans le monde entier, même le dimanche à l'église. Je suis allemand. Une idée soudaine me traverse en effet l'esprit. J'aimerais bien voir ce qu'ils vont faire d'un boche trouvé sur leur territoire sans passeport et sans billet. Allemand, tiens, tiens, ne me dites pas que vous venez de Potsdam. Non, seulement de Vienne. C'est en Autriche, mais peu importe. Donc vous êtes allemand. Pourquoi n'avez-vous pas de passeport ? Je l'ai perdu. Et ça recommence. Dans tous les pays, on pose exactement les mêmes questions. Ils se les refilent. Elles ont sans doute été inventées en Prusse ou en Russie, où on est très fort pour s'ingérer dans la vie privée. Là-bas, les gens sont très patients et acceptent n'importe quoi. Ils vont jusqu'à ôter leur casquette devant le moindre uniforme. Car dans ces pays, l'uniforme est le dieu vengeur que l'on doit honorer et prier pour échapper à sa vindicte. Deux jours plus tard, j'ai copé de 2 semaines de détention pour avoir voyagé sans billet. Si j'avais dit que j'étais américain, ils auraient peut-être appris que j'avais déjà été condamné pour le même motif et la peine aurait pu être plus lourde. Je ne donnais même pas mon nom. Ne pas avoir de passeport ou de livret de marin dans sa poche a ses avantages. Une fois les jours de préparation passés, on m'incorpora à une équipe de travail. Dans l'atelier, on fabriquait de curieux petits trucs en fer blanc. Personne, pas même les surveillants, ne savait à quoi ils servaient. Certains prétendaient qu'il s'agissait de pièces de jouets, d'autres de cuirassés. D'autres encore étaient persuadés que c'était des pièces de voiture, et certains juraient et pariaient leur tabac introduit en fraude que ces morceaux de fer-blanc constituaient des éléments importants de dirigeables. J'étais quant à moi certain qu'ils devaient entrer dans la fabrication d'un scaphandre. Comment j'en étais arrivé à cette conclusion, je l'ignore. Toujours est-il que cette idée s'était ancrée en moi, peut-être parce que j'avais lu quelque part qu'on a besoin de tout un tas de pièces spéciales jamais utilisées autrement pour fabriquer un scaphandre. Je devais compter 144 de ces pièces en fer-blanc et les empiler. Une fois que j'avais constitué un tas et que je voulais en commencer un autre, le surveillant arrivait et me demandait si j'avais bien compris qu'il devait y en avoir 144 et si je ne m'étais pas trompé. J'ai bien compté, il y en a exactement 144. C'est bien sûr, je peux vous faire confiance ? En me posant la question, il me regarda d'un air tellement soucieux que je commençais sincèrement à douter de mon calcul et suggérait qu'il serait peut-être préférable que je recompte. Le surveillant convint alors que ça valait sans doute mieux pour éviter tout risque d'erreur. Car, si le compte n'y était pas, ça ferait de sacrées histoires, et il pourrait même perdre son emploi, ce qui serait très fâcheux, du fait qu'il avait 3 enfants et une vieille mère à nourrir. Lorsque j'eus compté pour la 2e fois et constaté que je ne m'étais pas trompé, le surveillant revint. Je remarquai les plis d'inquiétude sur son visage, et, pour l'aider et lui montrer que je prenais à part ses soucis, que je prenais part à ses soucis, je lui dis, avant même qu'il ait eu le temps d'ouvrir la bouche, « Je crois que je préfère recompter, je pourrais avoir fait une erreur d'une ou deux pièces. » Son visage s'éclaira aussitôt d'un sourire radieux. On aurait dit qu'on venait de lui annoncer qu'il allait toucher dans moins d'un mois un héritage de 50 000 francs. Oui, pour l'amour de Dieu, recomptez bien. Car s'il y avait une pièce en plus ou en moins, le directeur me convoquerait et je ne sais pas ce que je ferais. Je perdrais sûrement mon emploi. Et alors que deviendraient mes pauvres petits? Sans compter ma femme qui n'est pas en très bonne santé et ma vieille mère en plus. Oui, recomptez bien. 144, exactement 12 douzaines. Peut-être vaut-il mieux les compter à la douzaine. On se trompe moins facilement. Le jour où je fus libéré après avoir purgé ma peine, j'avais en tout et pour tout compté 3 tas. Aujourd'hui encore, j'ignore si je ne me suis pas trompé. Mais j'espère secrètement que le fidèle fonctionnaire et gentil père de famille aura fait recompter les 3 tas au cours des 15 jours suivants, car je n'aimerais pas porter la responsabilité de sa convocation chez le directeur. Je reçus 40 centimes pour mon travail. Une chose est sûre, que je me fasse pincer 2 fois de plus pour avoir voyagé dans un train français sans billet et l'État français fera forcément faillite. Aucun État n'y résisterait, même s'il était en meilleure posture que celui de la France. Non, je ne pouvais vraiment pas faire ça à l'État français, et je n'avais pas envie non plus qu'on vienne me dire que c'était peut-être à cause de moi qu'il n'arrivait pas à rembourser ses dettes. Je me sentais donc obligé de quitter le pays. Je ne voudrais cependant pas passer sous silence l'autre raison qui m'incitait à filer au plus tôt. En me libérant, on m'avait de nouveau averti, et très sérieusement cette fois. Si je n'avais pas quitté le territoire français dans les 15 jours, ce serait 1 an de prison et l'expulsion vers l'Allemagne. J'aurais alors causé toutes sortes de dépenses à ce pauvre État. J'eus donc sincèrement pitié de ce pays harcelé. Voilà donc pour cet extrait de Le vaisseau des morts par Beethoven. On se fait une petite pause musicale avant de présenter la suite du livre. Pause avec la chanson Le Contrôleur de Zabriskie Point.
Content de vous voir enfin, monsieur le contrôleur. Ça fait des mois que je vous attendais. Content de devoir payer l'amende, monsieur le contrôleur. Je paierai les millions si je les avais. Depuis le temps que je prends tous les bus sans jamais les payer, car je pousse les lignes jusqu'à terminus sans pouvoir embarquer. Je commençais à douter de votre tête. Je commençais à douter. Mais si je peux m'arrêter
Sur Radio Canu, Rebelle, émission Angle Mort, émission de critique sociale, et donc avec ce soir une présentation de l'auteur Betraven et plus particulièrement de son livre Le Vaisseau des Morts. Et donc je poursuis la présentation de ce livre, je ne vais pas m'arrêter plus que ça, hein, mais voilà, pour dire finalement le héros ballotté d'un pays à l'autre. Embarque finalement sur un vaisseau fantôme, voilà, le genre de navire qui ne fonctionne que parce qu'il existe dans ce monde des gens qui sont à ce niveau de voilà, des fugitifs, des gens qui doivent se cacher, des sous-prolétaires qui n'ont plus le choix. Bon, ceci dit, les conditions dans lesquelles le héros du livre embarque sur le navire en question ne se résume pas vraiment au modèle du « j'ai plus le choix, si je veux manger, il faut que je travaille », etc. Parce qu'à ce moment-là, en fait, le héros est en Espagne, il est plutôt heureux, il vit de peu, il vit de pêche, je crois, si je me rappelle bien. Et puis, il voit ce bateau arriver au loin, ce qui fait bien rire, parce qu'il dit « putain, faut quand même être sacrément dans la mouise pour embarquer sur ce bateau-là, ça m'arriverait jamais à moi ». Et puis finalement, le bateau passe à proximité, puis il y a quelqu'un sur le bateau qui l'appelle, enfin lui dit est-ce que voilà, qui lui propose du travail, et puis lui du coup, un peu par superstition, il peut pas dire non si on lui propose du travail. Quand même, il essaye de poser tout un tas de questions pour lui donner l'occasion de refuser l'offre en fait. Mais à chaque fois, le mec, en fait, il est malin en face. Donc à chaque fois, il répond les bonnes trucs. Oui, ça tombe bien, on va là-bas, venez. Donc du coup, il se retrouve un peu pris au piège. Il est obligé d'embarquer. Par superstition, il peut pas dire non. Donc c'est assez marrant. C'est encore un passage assez burlesque. Mais qui peut faire passer une offre Pôle emploi aussi, quoi. C'est-à-dire que on se sent obligé d'accepter une situation qui va être encore plus mauvaise encore que si on avait refusé cette offre piège d'emploi où on va se faire exploiter et payer des coups de lance-pierre. Et donc voilà, lui, il se retrouve piégé sur ce vaisseau fantôme, c'est-à-dire une sorte d'épave, de cercueil flottant, que l'armateur maintient à flot, en sachant très bien qu'il va couler d'un instant à l'autre, mais c'est justement pour toucher la prime d'assurance. Donc on sait très bien que les gens qui sont dedans vont crever. Il y a juste un canot de sauvetage pour le capitaine et on va dire ses subalternes, quoi. Et donc c'est un navire qui ne continue à flotter que pour toucher la prime d'assurance au moment où il a coulé, et entre temps on va quand même essayer de le pousser à bout, donc on va lui faire faire des trafics, des choses comme ça. Donc sur ce bateau, rien ne va se passer dans les règles, évidemment, hein, et ceux qui sont là-dedans sont des, on peut dire des personnes très dégradées, voilà. Celui qui entre ici abandonne son nom et sa vie au vent qui les emporte. C'est sur ces mots inscrits à l'entrée du poste d'équipage que s'ouvre la deuxième partie, qui va assez rapidement abandonner le ton burlesque au profit d'une description plus réaliste d'une situation d'exploitation la plus nue. De voir comment ça marche, les conditions de vie les plus dégradées, les travaux les plus dangereux sur ce genre de vaisseau fantôme. Ouais, de mémoire, parce que là j'ai pas relu cette partie, c'est un peu vieux dans ma tête, mais on voit aussi du coup comment l'homme est amené à bon, dans ces conditions un peu particulières, à supporter des conditions de vie les plus terribles, quoi. Et comment il s'y fait ? Il s'y fait un peu par fatigue. Et donc là, je lis un extrait qui, pour le coup, va être beaucoup plus court que le premier. Quand vous êtes anéanti au point de ne plus pouvoir sortir un seul mot, vous ne vous souciez pas de ce qui se passe autour de vous. Qu'il arrive donc ce qui doit arriver, l'essentiel est de se coucher et de dormir. Vous êtes tellement épuisé par le boulot que vous cessez de penser aux moyens de résister ou de vous enfuir, et que vous cessez même de penser à la fatigue. Vous devenez une machine, un automate. Vous pourrez bien voler ou assassiner quelqu'un à côté de vous, vous ne verriez rien. Vous n'entendriez rien. Une seule chose compte, dormir, dormir. Voilà, donc je propose de refaire une nouvelle pause. Voilà, j'en ai donc fini avec cette présentation du Vaisseau des Morts, livre de Betraven, alias Hal Kroves, alias, enfin, je ne vais pas tous les refaire. À l'instant, là, on s'écoutait, c'est encore en fond sonore, Rolix, un titre qui s'appelle Das Totenschiff. Je ne me suis pas penché plus que ça sur le sujet, mais je pense que ça doit être peut-être inspiré de ce livre, puisque, comme je le disais, Das Totenschiff, c'est le Vaisseau des Morts en allemand. C'est un livre qui a été publié d'abord en allemand. On va terminer cette émission en passant quelques titres musicaux avant de laisser la place à la causerie. Tout de suite, je vous propose d'écouter Fourmi Delta avec le titre...
Fourmi Delta,
c'est ça. Avec le titre Morcelé qui, justement, a pour thème les frontières, la nation, etc. etc.
D'accord, c'est parti.
Yeah. à la moindre occasion. Car à la base, ma peau n'est pas douée pour la métamorphose.
Je cherche l'enclos.
Et oui, on cherche l'angle mort.
Et on le cherche, on le cherche. Et donc, eh bien, on va s'arrêter là. Hein. Donc, je vous invite, moi, à lire hein, ce livre, Le vaisseau des morts, qui dénonce capitalisme et inégalité sociale de manière assez brillante, je trouve. Et à la fois, voilà, en mêlant une première partie très drôle. Enfin, en tout cas, où c'est pas forcément drôle, mais c'est pince sans rire peut-être, ou enfin je sais pas, c'est ironique. Et deuxième partie plus crue, plus voilà, sur vraiment les conditions de vie scandaleuses de ces personnes qui se sont trouvées embarquées dans des vaisseaux fantômes exploités par une compagnie voilà, qui se fait clairement de l'argent sur leur vie. On va se lancer, on va vous dire au revoir.
Puis on va mettre un dernier titre.
Voilà, on met un dernier titre avec. C'est un titre tiré de la série Trémé.
Ah oui,
et
qui
il faudra
est super
que,
bien.
Que tu mettes en fait. Alors je vais le dire hors micro. Il
faut mettre la 11 en fait.
Si on ne s'est pas trop checké avant. Alors, donc c'est Rubber's Brass Band avec la chanson Feel Like Funkin' It Up.
Voilà, salut, à bientôt. Oh,